Les élus de la province Nord étaient réunis hier pour une assemblée publique à Koné. À l'ordre du jour, des modifications de certaines dispositions des statuts de Nord Avenir, mais aussi la décision modificative numéro 2 de la province pour l'exercice 2026. Pas de nouvel investisseur pour Prony Resources. L'entreprise NBM a informé Bercy qu'elle renonçait à présenter une offre de reprise. Elle estime que le projet n'est pas viable dans les conditions actuelles. En métropole, pour la troisième fois cette année, le gouvernement a abaissé sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5%, en tablant sur un rebond incertain à 1% l'an prochain. Il ne peut y avoir que la victoire dans la guerre contre le terrorisme, les mots de Donald Trump lors de la cérémonie d'hommage aux 2977 victimes des attentats du 11 septembre 2001 qui se déroulaient la nuit dernière pour nous. Le top départ de l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie a été donné hier soir au Piroguier du Mont d'Or. Un événement très sportif avec pas moins de 108 km et 4800 mètres de dénivelé positif pour l'épreuve reine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal et les statuts de Nord Avenir modifiés lors de l'Assemblée de la province Nord qui était réunie hier à Koné sous la présidence de Paul Niaoutine. Les débats ont été plus apaisés que lors de la précédente Assemblée où le rapport de la Chambre territoriale des comptes avait provoqué une passe d'armes entre le président et Pascal Sawa, le chef du groupe UCFLNKS Nord. Ces modifications de certaines dispositions des statuts de Nord Avenir étaient une recommandation de la CTC, souligne Vanessa Wachapo, chef du groupe Agissons Ensemble pour le Nord.
C'était une recommandation de la CTC puisqu'elle a précisé dans un rappel de droit que le nombre d'administrateurs émanant du public, c'est-à-dire nommés par la province, soit revu à la baisse. Donc actuellement, il y a 7 administrateurs représentant la province. Et donc là, l'Assemblée a voté et a délibéré pour diminuer à 6. Et donc l'actionnaire, enfin en tout cas l'administrateur, sera donné en faveur des actionnaires privés. Ça ne change rien en termes de délibération ou de validation, ni en termes de gouvernance, puisque les 6 membres représentants de la province restent quand même malgré tout majoritaires. Il n'y a pas eu de débat, puisque comme vous le savez, à la dernière Assemblée, l'amendement qui avait été déposé par le groupe UCFLNKS a été renvoyé en commission ad hoc. Donc lors de la commission, les amendements n'ont pas été retenus. Et il n'y a pas eu de réellement de débat, mais pour autant, on a aussi souligné tout groupe qu'il est important qu'on ait une stratégie en matière de développement économique.
Lors de cette séance publique, les élus ont aussi adopté la décision modificative numéro 2 de la province pour l'exercice 2026. Les précisions de Pascal Sawa, le chef du groupe UCFLNKS.
Plusieurs points qu'on peut retenir. Déjà, le premier point concernant la délibération modificative, il y a eu pas mal d'agencements qui ont été faits pour finir l'année. Ensuite, le deuxième point, c'est comme sur la précédente assemblée, le rapport de la CTC concernant Nord Avenir. Donc, on avait porté un amendement. Finalement, cet amendement-là, il est sans objet. Et donc, la procédure, elle s'est terminée. Et puis ensuite, il y avait un point sur les cantines scolaires et la subvention républicaine. Il y a eu des points qui ont fait débat, mais il n'y avait pas eu de clash comme la dernière fois. Donc nous, on a pris acte du fait que notre amendement, il n'était pas inscrit à l'ordre du jour. On a dit ce qu'on avait à dire dans notre déclaration concernant le règlement intérieur et concernant les droits. Les groupes dans l'opposition, c'était plutôt un rappel ou une observation. Donc on continuera à jouer notre rôle et puis on portera nos projets à l'Assemblée de province.
Parmi les autres délibérations adoptées, celle qui habilite le président à signer les conventions en vue de la rénovation des collèges de Koumac et de Poya. Pas d'offre de reprise pour Prony Resources. L'entreprise NBM a écrit jeudi à Bercy pour l'indiquer. NBM estime que le projet n'est pas viable dans les conditions actuelles. La société indique que la décision a principalement été motivée par l'augmentation du prix du soufre. De plus, elle a dû remplacer un partenaire technique chinois pour répondre aux exigences de la France, ce qui a rendu l'aspect technique plus difficile à mettre en œuvre. Pour autant, l'entreprise affirme qu'il ne s'agit pas d'un retrait définitif. Un retrait de NBM qui fait réagir les salariés de PRNC. Alexis Falematagia, le secrétaire général adjoint de l'U5, évoque un coup dur pour les équipes de PRNC et il demande lui aussi à l'État d'intervenir sur le prix du soufre.
Pour les salariés, c'est vrai que c'est un coup de massue parce qu'on espère une reprise depuis maintenant un certain nombre de mois. Donc tous les efforts des salariés sont faits pour atteindre la production. Aujourd'hui, on a un prix du soufre à 50 millions de dollars le bateau, et on a besoin tous les deux mois, ça a multiplié par 5. Donc, on a des difficultés avec ce prix et on demande aussi à l'État pour intervenir justement sur ce prix du soufre qui est exceptionnel, qui gêne la production aujourd'hui et qu'on comprend ce message de NBM comme un moyen de pression. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 1400 salariés aujourd'hui qui vivent par rapport à la production de nickel. Il y a aussi la sous-traitance. Donc, il y a une inquiétude globale au niveau de l'usine sur la visibilité de Prony Ressources.
Alexis Falematagia note que des sous-traitants de NBM sont déjà venus à Goro dernièrement. Ils regrettent la politisation du nickel calédonien.
Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'ingérence politique sur ces dossiers-là. Donc, il nous est difficile d'apprécier vraiment précisément ce qui gêne au niveau géopolitique, au niveau de l'État français. On demande de trouver les solutions, notamment ce qu'on a entendu dire sur la partie technique de NBM qui gêne un peu le dossier, d'essayer d'assouplir, en tout cas de discuter, de pas interrompre le dialogue avec le repreneur pour essayer de trouver une solution gagnante-gagnante pour toutes les parties qui sont sur le dossier de reprise de Prony.
Alexis Falematagia affirme que les efforts ont été réalisés par les employés et les salariés pour rendre l'outil compétitif et le projet viable pour favoriser une reprise. Jeudi, le conseil d'administration de PRNC était réuni et a décidé de diminuer la production pour limiter sa consommation de soufre. Et c'est le député Nicolas Metzdorf qui était hier l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. De retour de Paris, où il a participé à la mission transpartisane, le député de la première circonscription s'est exprimé sur les résultats de cette mission, mais aussi sur les déclarations du chef de l'État, qui a donc exprimé sa volonté de fermer la porte aux investisseurs chinois. Une interview du député Nicolas Metzdorf à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Et elle sera rediffusée demain soir en intégralité, juste après notre édition de 17h45. Et ce matin, nous vous proposons à partir de 11h la rediffusion du Club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, le débat sur la présence de repreneurs chinois pour les usines calédoniennes après la prise de position du président de la République et l'annonce du retrait de NBM pour la reprise de PRNC. Les consultants du club sont aussi revenus sur le feuilleton et sur l'action des avocats de la CCAT qui veulent saisir la Cour de justice de la République. Un club politique disponible en audio sur notre site internet rrb.nc. Comment relancer le commerce dans le Grand Nouméa après les bouleversements engendrés par les violences de mai 2024 ? C'est la question qui était au cœur d'une mission menée pendant 2 semaines sur le territoire et qui vient de s'achever. Des pistes d'action ont été proposées pour comprendre les nouvelles habitudes des consommateurs et redynamiser le secteur. David Sarrazin, directeur d'AID et spécialiste de la redynamisation commerciale, a notamment identifié certains leviers d'action pour relancer le secteur. David Sarrazin.
Les priorités, c'est d'abord d'ouvrir ce commerce et de comprendre ses nouveaux usages, ses nouveaux comportements d'achat, ce client qui évolue, comment on s'adresse à lui, de quelle façon on s'adresse à lui et comment on optimise finalement sa consommation dans le commerce calédonien. Alors il faut effectivement faire évoluer à la fois ce qu'on propose, aussi la façon dont on lui propose ses produits. Donc c'est un ensemble de sujets qui implique à la fois les commerçants mais aussi les collectivités, puisqu'on a beaucoup parlé dans ces rencontres de ce qu'on a appelé l'expérience d'achat, c'est-à-dire la qualité de fréquentation des sites commerciaux, des centres-villes. Donc c'est vraiment un ensemble de sujets. Évidemment, il y a aujourd'hui beaucoup de travail enclenché, mais on a rencontré beaucoup d'acteurs qui ont la vraie volonté de faire avancer les choses.
Au-delà du diagnostic, cette démarche doit maintenant permettre de faire émerger une véritable dynamique collective. Commerçants, communes, acteurs économiques et institutions sont appelés à travailler ensemble pour construire des solutions concrètes pour raviver le commerce en Calédonie. Et cela passera forcément par une meilleure attractivité du territoire, explique Christopher Gigès, vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge du secteur de l'économie.
On est sur un plan de reconstruction du commerce. La première des mesures, c'est de faire revenir des clients. Et donc la première mesure, c'est d'avoir de l'attractivité pour la Nouvelle-Calédonie, de faire que des gens reviennent sur le territoire. Ça passe par des mesures à la fois de sécurisation, des mesures fiscales, des mesures de promotion du territoire, et c'est bien ce qu'on va faire avec Choose Outre-mer, avec des dispositifs d'attractivité. Néanmoins, le secteur du commerce, il doit être accompagné. C'est un pan qui est important pour l'économie calédonienne. La Nouvelle-Calédonie va prendre sa part totalement via des zones franches commerciales, via des dispositifs fiscaux allégés, via de la simplification administrative. Mais ce que j'ai demandé, c'est que, enfin, nous, on n'est pas commerçants, donc Donc on a besoin d'avoir des détails précis de là où ça bloque et on fera débloquer les choses par l'administration. Là où on a des règles qui servent à rien, des documents qui servent à rien, on les lèvera et on favorisera l'attractivité.
Des réunions de travail seront prochainement mises en place pour concrétiser ces projets d'attractivité. En attendant, la CCINC mettra à disposition cette étude sur son site internet d'ici un mois. L'IOM, l'ISE et l'AFD rencontraient la presse hier pour une présentation des comptes économiques rapides de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2025. Une étude qui dresse le bilan économique de l'année écoulée. 2025 aura vu une reprise fragile après le choc historique de 2024. Une reprise marquée notamment par un léger rebond du PIB, le produit intérieur brut de 0,7% en volume. Mais en valeur, le PIB est en baisse de 3%. Fabrice Dufresne, directeur de l'agence de l'Institut d'émissions d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie, constate que la confiance chez les entrepreneurs revient doucement, avec là aussi un rebond de l'indice du climat des affaires.
L'indicateur du climat des affaires, qui est réalisé à partir d'un questionnaire que l'on adresse à 200 chefs d'entreprise chaque trimestre, fait état d'un redressement assez significatif à fin juin 2026, puisqu'il progresse de près de 6 points. C'est une valeur pour la première fois au-dessus de la moyenne de longue période qui n'avait pas été observée depuis 2 ans. Ça traduit un moral des chefs d'entreprise globalement favorable, et notamment à l'issue des élections provinciales et du pacte de gouvernance qui a été scellé entre différents groupes politiques, puisque nous avons interrogé ces chefs d'entreprise entre le 1er juillet et fin août.
Et pour le premier trimestre 2026, certains indicateurs repassent dans le vert. Cela concerne notamment l'emploi salarié dans le privé, avec une hausse de 1,3% par rapport au premier trimestre 2025. Autre indicateur qui s'améliore, avec une hausse de la création d'entreprises et en parallèle, un recul de la cessation d'entreprises. Il est 7h passé de 12 minutes. Première pause dans ce journal, avant de passer à l'actualité en métropole et dans le monde. À tout de suite.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos. Profitez-en. DCSM réouvre le samedi matin de 8h à 11h.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébigue à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Et si les écrans prenaient un peu trop de place dans nos vies? Découvrez La Famille Tout Écran, un spectacle de théâtre drôle et touchant à découvrir en famille dès 5 ans. Suivez Léa, une petite fille pleine d'imagination qui découvre peu à peu les pièges et les dangers du monde numérique. Rendez-vous samedi 12 septembre à 16h au Petit Théâtre du Mont d'Or. Tarif à partir de 1600 francs sur loisirs.mont-d'or.nc. Un spectacle de la compagnie L'Equidame avec le soutien de la ville du Mont d'Or. Renseignements au 41 90 90.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
En métropole, après l'INSEE hier, c'est le gouvernement qui fait part aujourd'hui de son pessimisme quant à la situation économique de la France. Bercy revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2026 à 0,5% du PIB contre 1% initialement. Les nombreuses crises traversées ces derniers mois semblent avoir touché la France davantage que ses voisins européens. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Par rapport au début de l'année, la prévision de croissance est deux fois plus faible. Après 1% en janvier, 0,7% en juillet, Bercy mise désormais sur une progression du PIB de 0,5% seulement. Deux facteurs principaux pour justifier cette baisse. Les vagues de canicule dont l'impact sur la production agricole aura coûté 0,1 point de croissance. Et l'effet Hormuz, l'explosion des coûts de l'énergie a pesé sur la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, au point d'amputer de 0,2% la progression du PIB. Moins de croissance, c'est moins de recettes fiscales et un objectif de réduction du déficit public qui ne tient plus, comme l'a expliqué le ministre de l'économie, Roland Lescure.
Le 5% aujourd'hui, c'est plus une option. Donc on aura un déficit supérieur à 5.
La France achèvera donc l'année avec plus de 155 milliards d'euros de dépenses non financées par des recettes. L'ajustement budgétaire attendra au moins 2027. Le gouvernement devrait pouvoir compter sur une croissance un peu plus dynamique. Elle atteindrait 1% selon les prévisions de Bercy.
Les explications de Barthélémy Philippe pour Europe 1. Et cette situation déjà très inquiétante pourrait encore s'aggraver dans les prochains jours compte tenu des dernières évolutions au Moyen-Orient. Après Hormuz, l'Iran semble être en mesure de contrôler indirectement un autre détroit stratégique pour l'économie mondiale, celui de Bab el-Mandeb. Les rebelles houthis se sont emparés de cette voie maritime entre la mer Rouge et le golfe d'Aden au terme d'une offensive éclair. Mais le groupe terroriste soutenu par Téhéran promet une navigation sûre pour tous les navires, excepté pour les compagnies saoudiennes. Et cette prise de contrôle du détroit par les Houthis pourrait avoir des conséquences cataclysmiques pour l'inflation. C'est l'alerte lancée aujourd'hui par Jordan Bardella. Le président du RN pointe l'aveu d'échec et d'impuissance du gouvernement face à la baisse du pouvoir d'achat. Un bras d'honneur fait aux Français, selon lui. Parmi les mesures défendues par son parti, la baisse de la TVA sur l'énergie. Et les communistes sont sur la même ligne, mais le patron du PCF va plus loin. Fabien Roussel appelle au soulèvement populaire.
Cette rentrée, elle débute avec des prix de l'essence à plus de 2 euros et 20 centimes, avec des prix de l'électricité et des prix du gaz qui vont encore augmenter. Il y a un véritable racket qui s'exerce sur le pouvoir d'achat des Français. C'est tout le temps les mêmes qui se font tondre depuis des mois et des mois. Alors je dis tout simplement que les Français en ont marre d'être pris pour des moutons. Il serait temps que la tonte change de camp, tout simplement. Je demande à ce que l'on baisse la TVA immédiatement sur les prix du gaz et de l'électricité, sur le prix de l'essence. J'appelle les Français à occuper les ronds-points, à se mobiliser devant les sous-préfectures, devant Matignon, l'Élysée, devant le siège de Total. Partout où ces décisions se prennent, il faut que ça agisse vite et fort maintenant.
Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, à la fête de l'humanité la nuit dernière pour nous. Et cet appel est peut-être déjà entendu ces dernières heures. Des affiches faisant référence à un retour des gilets jaunes circulent sur les réseaux sociaux. Des rassemblements sont annoncés dans plusieurs villes. La date la plus citée est celle du samedi 17 octobre. Aux États-Unis, une journée d'hommage aux 2977 victimes des attentats du 11 septembre 2001. Des cérémonies organisées sur le site du World Trade Center au Pentagone, où Donald Trump s'est exprimé. Le président américain souligne la nécessité de se battre encore aujourd'hui contre la menace islamiste qui prend une toute autre forme un quart de siècle plus tard. William Molinier pour Europe 1.
Al-Qaïda est toujours active, mais sous une autre forme. Plutôt qu'une centrale pilotée par un chef charismatique, l'organisation terroriste se décline en plusieurs sous-groupes régionaux et autonomes. Ils combattent sous la même bannière. Le nouveau centre de gravité se trouve désormais en Afrique, au Sahel notamment. Le JNIM, affilié à Al-Qaïda, étend son emprise au Mali et pousse vers les pays du Golfe de Guinée. En Somalie, les Chebabs restent puissants. Au Yémen, Al-Qaïda dans la péninsule arabique monte de nouveau en puissance. Les États-Unis ont gagné la guerre contre l'Al-Qaïda de Ben Laden. Ils ont décapité son commandement, détruit ses sanctuaires et réduit sa capacité à organiser des attentats complexes en Occident. Mais la marque a survécu. Elle s'est fragmentée, déplacée, enracinée dans les guerres locales et elle n'a pas pour autant abandonné son objectif initial. L'ONU considère aujourd'hui encore que la nébuleuse conserve l'ambition de mener des attaques extérieures spectaculaires.
Une menace islamiste très présente également en France. L'assassinat terroriste de Samuel Paty en 2020 marque un véritable tournant. La sœur du professeur Michael Paty salue aujourd'hui la peine de 6 mois de prison ferme prononcée hier à l'encontre d'un parent d'élève qui avait menacé une enseignante de décapitation. Les faits se sont produits au Foga près de Toulouse il y a une semaine. Il est 7h19, deuxième pause et nous reviendrons à l'actualité sur le territoire, actualité festive.
Chez Sima Quincaillerie, c'est le moins des bons plans. La ponceuse vibrante Makita 180 watts est vendue 8 900 francs. Offre valable du 1er au 30 septembre dans la limite des stocks disponibles. Plus d'infos sur simac.nc, à Nouméa, carrefour du 4e et à Koné, lotissement Katawiti. Sima Quincaillerie, tout le monde s'y retrouve.
De Bancoul.
Ils seront là, les célèbres bers de Bancoul. Ce dimanche, retrouvez-les au grand marché de Mamie devant la mairie de Farino de 8h à 13h30. Un programme particulièrement alléchant puisqu'une manche du championnat de Nouvelle-Calédonie de barbecue précédera dès 10h l'incontournable moment gourmand, la dégustation des bers de Bancoul crus après fouillage et cuits si le cœur vous en dit. Une expérience unique, pleine de curiosité, de tradition et de saveurs bien de chez nous. Au programme également, produits du terroir, artisanat local et plantes, animation et musique pour une ambiance garantie. Alors venez vivre vivre cette tradition en famille ou entre amis, venez découvrir, goûter, rire et partager ce dimanche, direction Farino. Les Verts de Bancoul vous attendent au grand marché de mamie.
Maman, maman, on met quand nos plus beaux costumes ?
Bientôt ! Le grand carnaval du Mont d'Or, c'est le samedi 19 septembre à 18h.
Super ! Il y aura des manèges, du maquillage et des gâteaux ?
Oui, répartis sur deux grands villages, à la place des Accords et au centre culturel. Plein d'animations, de jeux et de gourmandises sont prévues. Et bien sûr, le grand défilé qui passera devant la mairie et arrivera au stade Boéois. Attention, les routes sont fermées dès 16h, mais des navettes et parkings gratuits sont prévus.
Venez tous sur la fête avec nous !
RRB, première radio d'information.
Sur le territoire, plusieurs événements phares animeront ce week-end festif. Et les Calédoniens peuvent profiter depuis hier du 8e Festival international de magie. Mickaël Juneski, plusieurs représentations sont proposées au Centre culturel du Mont d'Or.
Quatre artistes internationaux ont fait le déplacement. Un magicien venant de Corée du Sud, un métropolitain, un Thaïlandais et un Néo-Zélandais. Et bien sûr, Guy Raguin. Il est possible d'assister au spectacle. Réservation sur ticket.ca. Autre festival, la 6e édition des Francophones qui se déroule encore ce soir au Centre culturel du Mont d'Or, au Centre culturel Chibaou, pardon, à l'affiche Joker, Blaise Faya et d'autres artistes calédoniens cette fois. Direction Dimbéa avec le Battle Underground organisé par l'association Adamic qui prendra ses quartiers au Big Up Spot de Koutio de 13h à 17h. Les mangas sont à l'honneur aujourd'hui de 9h à 17h à Bouraï, au Colisée et au cinéma de la commune. L'entrée est gratuite. Et puis à Pointe-Boute, l'ancien hippodrome accueille aujourd'hui la 12e édition de sa fête agricole. Les précisions de Katia Moglia, présidente du comité organisateur de la fête agricole de Pointe-Boute.
Cette année, on a des jeux équestres, du rodéo, divers stands de restauration, des stands de plantes, horticoles, un tas de stands divers. Cette année, on aura en exclusivité la visite de l'exploitation du lycée agricole Michel Roca. Et on a toute la journée les jeux équestres. Le rodéo, il commence à 16h30 avec la présentation des rodéomènes et 19h30 les remises de récompenses pour les rodéomènes. Les exposants, ils viennent de toute la Calédonie. On essaye de rassembler un maximum de monde afin de nous permettre de montrer le monde rural de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif de cette fête, c'est d'amener un maximum de personnes dans la commune afin de faire vivre toute la population.
La 12e fête agricole de Pointe-Boute se déroule donc de 8h à 20h sur l'ancien hippodrome de la commune. Encore un grand rendez-vous demain à Farino, le marché de mamie spécial Verts de Bancoul. Ça se passera de 8h à 13h. Nouveauté au programme, l'une des quatre étapes qualificatives du championnat de Nouvelle-Calédonie de barbecue s'y déroulera. Enfin, dans les îles, la 36e foire des loyautés est organisée depuis hier à Marais. À retrouver sur place les meilleurs produits de l'IFU, VA et bien sûr Marais avec des animations également tout au long du week-end.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, alors que le marché du verre de Bancoul se tient ce dimanche, 90% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que les marchés ruraux sont les victimes d'un excès de réglementation. Ils ne sont que 10% à être d'un avis contraire. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. En attendant, il est 7h23, courte pause avant d'ouvrir notre page sport.
Gagnez 100 000 francs de bons d'achat à dépenser comme vous voulez, où vous voulez. Envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, 100 000 francs sont à gagner. Et chaque SMS est pris en compte pour le tirage au sort du million. Envoyez RRB au 4020. Bonne chance. 371 francs par SMS. Règlement à l'accueil de la radio.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
On ouvre cette page sport avec du football et la quatrième journée de Ligue 1 qui débutait par une rencontre Rennes-Marseille, Mickaël.
Et après 75 minutes de jeu, le score est de 1 but à 0 en faveur du Stade Rennais. Premier but inscrit par Thomasson à la 52e minute. Les Bretons qui ont l'avantage dans une rencontre très fermée. Marseille pousse pour essayer de revenir au score. On rappelle que l'OM est désormais retombé à la 10e place du classement alors que les Rennais sont 5e. Les Marseillais avaient occupé la première place à l'issue de la première journée, mais ils n'ont pas tenu la cadence. présidence. Il totalise désormais une victoire, une défaite et un nul. Encore une dizaine de minutes à jouer dans ce match. Demain, la suite des rencontres. Strasbourg accueillera Monaco, Auxerre sera opposé à Nice, Le Havre recevra Angers, Lorient fera face à Toulouse et le Paris FC accueillera l'Olympique Lyonnais.
Sport collectif toujours avec du basket au féminin et les Françaises qui rêvent de titres en Coupe du Monde.
Les tricolores sont à un match d'une place en finale du Mondial, mais l'équipe de France dames affrontera la nuit prochaine la sélection allemande sur ses terres à Berlin dans le dernier carré. Dominique Malonga, pivot de l'équipe de France.
C'est encore un peu un plus avec ce challenge-là qu'on on joue contre l'équipe à domicile et donc voilà, on aime bien avoir ce petit challenge d'avoir toute la salle un peu contre nous et puis de la climatiser. Donc je pense qu'on joue au basket pour ça aussi, c'est des fois pour ces moments-là. Je pense que ça va être encore un petit plus pour nous, une plus grande source de motivation.
Un coup d'envoi du match à 1h30 du matin la nuit prochaine pour nous. L'autre demi-finale verra une opposition entre les Espagnoles et les Américaines.
Il y aura aussi du rugby avec la deuxième journée du championnat de France.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Le Top 14, c'est donc ce soir avec 5 matchs en simultané.
Les premières rencontres à suivre en effet en multiplex. Perpignan qui recevra Castres, le deuxième du classement. Le promu Vannes accueillera Montpellier. Le Stade français sera sur le terrain de Clermont. La section paloise, troisième, accueillera Bayonne. Et Lyon se déplacera sur la pelouse du Racing 92. Demain matin, dès 6h, le RC Toulon recevra La Rochelle. La dernière affiche lundi matin. Déjà un choc entre le Stade toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles.
Et notez que l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande joueront leur quatrième test match de l'été. Les Springboks feront face aux All Blacks demain matin dès 8h, un match organisé aux États-Unis. On passe au tennis avec l'US Open.
Et la dernière ligne droite dans le tournoi du Grand Chelem new-yorkais chez les messieurs, qui se hissera en finale ce matin? L'Allemand Alexander Zverev, en position de favori après l'élimination de Carlos Alcaraz et en l'absence de Yannick Sinner, fait face au Russe Karen Khachanov. Nous aurons ensuite le droit à un duel entre deux Américains. Frances Tiafoe sera opposé à Ben Shelton, le tombeur de Carlos Alcaraz, en quart de finale.
Le cyclisme avec la 19e étape de la Vuelta.
Et la victoire est revenue à l'Irlandais Eddie Dunbar sur cette 19e étape. Il a devancé le Colombien Santiago Buitrago au classement général à 2 jours de l'arrivée dans la ville de Grenade. L'Espagnol Enric Mas contrôle l'épreuve. Il reste leader de ce Tour d'Espagne avec 1 minute 37 secondes d'avance sur Primoz Roglic, le Slovène, et plus de 3 minutes sur l'Autrichien Félix Gall.
Les sports mécanique. En MotoGP, les pilotes disputeront ce week-end le Grand Prix de Saint-Marin.
Et l'Italien Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps des essais libres devant l'Espagnol Marc Marquez. Le Français Joan Zarco s'est montré une nouvelle fois en forme. Le pilote Honda a signé le 5e temps de la première séance, le 8e temps de la 2e séance, accédant directement à la Q2. Fabio Quartararo, lui, s'est classé 16e. Qualification et sprint race à suivre ce soir. La course demain soir. Le départ sera donné à 23h, heure de Nouméa.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaire des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Il y a aussi de la Formule 1 ce week-end avec le Grand Prix d'Espagne.
Et lors des essais libres, c'est le leader du championnat du monde, l'Italien Kimi Antonelli sur Mercedes qui a été le plus rapide. Il a devancé les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le Britannique Arvid Lindblade a réalisé à la surprise générale le 4e temps au volant de sa Racing Bulls. Puis il a écourté la séance en faisant une sortie de piste. Notez que George Russell sur l'autre flèche d'argent s'est contenté du 5e temps, suivi de Max Verstappen sur Red Bull qui complète le top 6. Le meilleur français Esteban Ocon a réalisé le 9e chrono. Pierre Gasly, heureux poleman du week-end de dernier à Monza, a réalisé le 11e temps de référence. Qualification programmée ce soir, la course demain soir. Le départ sera donné à minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sur le territoire, c'est parti pour l'UTNC, l'Ultra Trail de Nouvelle-Calédonie.
Oui, le départ a été donné hier soir à 22h depuis les Piroguiers du Mont d'Or. L'épreuve reine, réservée aux sportifs confirmés avec 108 km, 4800 mètres de dénivelé positif. Et au dernier pointage ce matin, après les 28 premiers kilomètres, c'est Julien Couquet qui était en tête, 3h28 minutes d'effort devant Liam Gilquin et Gaëlle Colombel. Émilie Graham était en tête chez les féminines. L'UTNC, ce sont aussi plusieurs parcours intermédiaires, un trail de 50 km tout de même, un autre de 20 km encore, ainsi qu'une dernière épreuve de 10 km. Les départs seront donnés tout au long de la matinée.
L'autre grand rendez-vous du week-end, c'est du football avec la finale de la Coupe de Calédonie.
70e édition de la compétition, le titre se jouera aujourd'hui au stade Nouma Dele. Finale inédite puisqu'après l'élimination prématurée de plusieurs favoris, dont le tenant du titre, l'AS Magenta, aujourd'hui c'est l'AS Cougnier qui défendra ses chances contre Horizon Sport. Le coup d'envoi du match sera donné à 16h. Le vainqueur jouera ensuite le 7e tour de la Coupe de France.
Enfin, Mickaël, un coup d'œil au reste des événements sportifs du week-end.
On est sur l'eau. L'ACPV organise aujourd'hui et demain un week-end de glisse. La deuxième édition de l'Open Pumfoil aujourd'hui et demain The Race, une course multisport. Il y a également du foot golf avec la 9e journée du championnat de Calédonie. Ça se passe à Dabéa. Enfin, des Calédoniens hors du territoire dans des compétitions ce week-end du football. La Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Dernier match de poule des Calédoniennes demain soir à partir de minuit pour nous. Ce sera face aux Nigérianes. Du handball avec la suite de l'IHF Trophy Senior. Première édition en Nouvelle-Zélande pour la sélection féminine. Un choc aujourd'hui pour les Calédoniennes face aux Néo-Zélandaises. Et enfin, du cyclisme avec pas moins de 18 Calédoniens engagés sur la 30e édition du Tour Tahiti Nui. C'est en Polynésie française, évidemment.
Merci, Mickaël Juneski, pour tous ces rendez-vous. Il est 7h30. On passe tout de suite à la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
La météo, c'est avec vous, Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin avec, avec une vigilance jaune,
ah,
forte
ça
et
change.
Houle. Eh ben oui, aujourd'hui, la nuit prochaine, sur les régions de Nouméa, Mandorah et l'île des Pins, pour une houle longue de sud-sud-ouest entre 3 mètres et 3 mètres 50. Ce matin, sur le nord et la côte est, le soleil est bien présent. Ailleurs, les plaques de nuages bas l'emportent, mais le temps est plutôt sec et les éclaircies s'élargiront parfois sur le sud-ouest. Le vent de sud-est soufflera, quant à lui, entre 15 et 20 nœuds. Pour cet après-midi, très rapidement, sur l'extrême sud et les loyautés, les nuages resteront nombreux et accompagnés de rares gouttes de pluie. En cours d'après-midi, des nuages issus de la chaîne déborderont vers l'est et la pointe nord en laissant quelques ondées sur le relief sud. On termine avec les maximales qui s'échelonneront entre 21 et 27 degrés mais resteront inférieures aux valeurs de saison.
Eh bien, merci beaucoup Ismaël. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera tout à l'heure à 8h.
RRB, la pub.